I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Trop bon. Donc ça, c'est mon petit déjeuner préféré. La chicorée.
Un bol de chicorée pour bien démarrer la journée, dans ou à la place du café. Pas besoin d'être du Nord pour l'apprécier, car la chicorée est en train de sortir du placard pour devenir un breuvage plus à la mode, et pas seulement au cinéma.
C'est du caramel ?
C'est de la chicorée. On rajoute toujours de la chicorée dans le café.
De la quoi ?
De la chicorée. Goûte-toi avant d'en dire du mal. C'est pas bon, Chécha ?
Si, c'est très bon.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible dès 17h sur leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré.
L'ami du petit déjeuner, publicité de 1982 qui a marqué mon enfance. L'air résonne dans ma tête dès que j'entends le mot chicorée, plus encore que ce moment terroir dans les ch'tis de Danny Boone. La chicorée, pour ceux qui n'aiment pas le café, le produit a certes une image un peu vieillotte. Mais ça, c'était avant. Bonjour Anaïs.
Bonjour Pierrick.
Vous avez écrit une enquête rafraîchissante pour les Échos Week-end sur le comeback de la chicorée. Il paraît que beaucoup d'enfants ne savent pas distinguer un concombre d'une courgette. Alors pour commencer, on va le rappeler, c'est quoi la chicorée ?
La chicorée, c'est une racine qui ressemble à un gigantesque panais. Ça fait partie de la famille botanique des Astéracées, comme sa cousine l'endive. En fait, il y a une variété qui donne des salades qui sont un peu passées de mode en France, mais par exemple aux États-Unis, c'est assez apprécié, c'est le radicchio. Et il y a une autre variété où c'est vraiment le tubercule en fait, qui est récolté, qui après un long processus de déshydratation et de torréfaction permet d'obtenir une poudre. Et une fois mélangée à de l'eau chaude, ça donne cette boisson qui a des goûts de noisette, de caramel, qu'on appelle la chicorée.
Où est-ce que ça pousse ?
Ça pousse dans le nord de la France, en fait. Il y a des champs autour de Calais, il y a des champs autour de Lille, etc. Donc aujourd'hui, en France, il y a à peu près 2000 hectares qui sont plantés, 250 planteurs différents. Mais aujourd'hui, on a aussi d'autres pays qui en plantent. Donc on a l'Inde, notamment, où Nestlé se fournit en partie. On a aussi l'Afrique du Sud.
Pourquoi est-ce que vous avez eu envie, d'un coup, d'écrire sur ce sujet ?
J'ai commencé à repérer qu'il y en avait en vente dans des épiceries, dans des supermarchés un peu branchés à Paris. Ça m'a un petit peu étonnée. Et j'ai vu un peu le dernier exemple d'un mouvement qui consiste à observer absolument toutes les choses qu'on mange et de s'inquiéter de la provenance, de l'empreinte carbone, etc. Donc, je me suis dit que jusqu'ici, les boissons, notamment le café, avaient un peu échappé à ces questions et que tout d'un coup, ça arrivait. Et aussi, je m'intéresse pas mal à tout ce qu'on appelle les rétro-innovations. Donc, l'idée d'aller regarder dans le passé, de remettre au goût du jour des techniques, des aliments anciens. Donc, c'était un peu la croisée de ces deux mouvements et donc ça m'a intéressée.
Je la retrouve dans ma cuisine parce que je n'aime pas le café, désolé. Un nordiste qui n'aime pas le café, c'est rare. On la sème, on la récolte et on la consomme un peu derrière, voilà.
Le témoignage d'un agriculteur consommateur dans l'émission Météo à la carte sur France 3. De la racine à la cuisine, il y a un pas. Comment cette tubercule est-elle consommée essentiellement sous forme de poudre à la place du café, c'est ça ?
Voilà, de poudre soluble en fait, comme le Nescafé. C'est l'utilisation principale, ce qui fait aussi que c'est très pratique et simple à faire. Donc oui, c'est tout un processus. Donc en fait, les tubercules, elles sont récoltées à l'automne. C'est lavé dans des grands bassins de décantation, parce qu'en fait, c'est plein de terre. Puis après, c'est découpé en fines lamelles. C'est ce qu'on appelle des cossettes. Et ces cossettes-là, ces sortes de chips, en fait, on les déshydrate dans des fours, parce qu'en fait, le tubercule, il est plein d'eau. C'est vraiment 75% d'eau. Il faut descendre à peu près 10%. Ensuite, c'est comme les grains de café. C'est torréfié, donc dans des énormes fours à gaz, avec une température entre 120 et 180 degrés. Et ça permet d'obtenir à la fin cette sorte de poudre soluble, ou des fois on en fait aussi un liquide sirupeux pour pouvoir le mettre dans des préparations culinaires, des crêpes, etc.
La chicorée, c'est le Nord, si je puis dire. Depuis quand ce produit est-il exploité? Quelle est son histoire?
Alors en fait, c'est une histoire plus que millénaire, parce qu'on estime que la chicorée était déjà consommée en Égypte au XVIe siècle avant Jésus-Christ. En fait, on en retrouve des traces dans le papyrus Ebers, qui est un des plus anciens traités médicaux, qu'il évoque parmi les plantes médicinales. Et on en trouve aussi des traces dans la Grèce antique. Donc on a le célèbre médecin Galien qui l'a surnommée l'ami du foie, parce qu'elle est riche en fibres prébiotiques qui aident bien à la digestion. Et en France, c'est pendant le blocus napoléonien, donc en 1806, qu'on a énormément d'habitants qui vont s'y convertir, puisque l'empereur bannit alors tout ce qui est produit des colonies britanniques, donc le café, donc le sucre de canne. Et donc les Français se tournent vers la chicorée. Et on va avoir le même phénomène pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, où il y a beaucoup de pénuries. Donc voilà, c'était un produit pas associé à des années forcément très heureuses.
Napoléon et la chicorée, pensez-y la prochaine fois que vous tremperez votre tartine de votre bol au petit déjeuner. Mais les temps changent et les styles de consommation aussi. Anaïs le disait, la chicorée revient à la mode. Une bonne nouvelle pour les producteurs de ces tubercules, car ceux-ci font grise mine, tout comme les producteurs d'endives. C'est ce que m'a expliqué Olivier Ducoin, correspondant des Échos dans le Nord.
En réalité, ils ont une sorte d'épée de Damoclès qui est sur leur tête. C'est que une molécule qui s'appelle la benfluorine, le nom commercial est plus simple, c'est le bonalan, qu'ils utilisent depuis de nombreuses années en tant qu'herbicide pour se débarrasser des mauvaises herbes, en particulier une mauvaise herbe qui est très invasive dans leur champ. Eh bien, cette molécule sera interdite à partir de la prochaine saison. Or, sans cet herbicide, eh bien, le rendement des récoltes est très compromis et du coup, beaucoup de producteurs se disent qu'ils n'y arriveront pas.
Ça veut dire qu'ils vont devoir désherber à la main, c'est ça, hein?
Ça, c'est ce qui se fait dans la partie bio, mais c'est absolument inenvisageable pour l'agriculture conventionnelle. Les prix de production, les prix de revient seraient beaucoup trop élevés, donc c'est absolument exclu. Même si je pointe quand même un élément important, c'est que les agriculteurs sont demandeurs de ne plus utiliser cette molécule, mais ils disent d'accord, mais il faut qu'on ait quelque chose en substitution. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative, et donc il y a un risque de devoir arrêter cette production, tout simplement. Et il y a vraiment... aujourd'hui, on parle de risque de fermeture de la filière chicorée, un peu comme celle des endives, puisqu'ils ont exactement la même difficulté avec la même molécule qu'ils utilisent.
Pour qu'on comprenne bien, Olivier, qu'est-ce que représente justement la chicorée pour l'agriculture de la région?
Alors, en fait, c'est une filière très minoritaire, puisque on ne compte que 200 producteurs et qui exploitent environ 2000 hectares. Donc on est très très loin des grandes cultures auxquelles on est habitué pour la région Nord. Donc c'est une culture relativement complexe, mais qui est assez rémunératrice pour les agriculteurs, qui est une filière très identitaire, puisque comme pour l'endive d'ailleurs, ce sont des cultures qu'on ne trouve pratiquement que dans la région Hauts-de-France, et qui ont une histoire. Et donc, encore une fois, c'est pas seulement des agriculteurs d'un côté, c'est toute une filière avec également des transformations chez des industriels comme la Chicorée Leroux, mais pas seulement. Il y a aussi une entreprise plus petite qui s'appelle Chicorée du Nord.
Vous avez rencontré, vous, des producteurs de chicorée, mais aussi d'endives pour les Échos. Vous parlez dans votre article de désespoir. C'est un mot fort?
C'est un mot fort, oui, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. J'ai assisté, en fait, à cette rencontre un peu de la dernière chance, j'allais dire, qui était organisée sous la houlette du Conseil régional Hauts-de-France, pour essayer de défendre, un peu tardivement, il faut le reconnaître, ces deux filières, endive et chicorée, parce que, pour le dire simplement, on n'a pas vraiment vu le coup venir. En tout cas, nous, journalistes, on s'en rend compte assez tardivement. Et en réalité, ce qui est menace, c'est que si les agriculteurs ont des rendements qui sont littéralement effondrés parce qu'ils n'ont plus la capacité de lutter contre soit les insectes, soit les mauvaises herbes, les adventices, comme disent les agriculteurs, bien, ça veut dire qu'ils vont se reporter vers d'autres types de production. Donc, eux, ils vont s'en sortir. Mais en revanche, les transformateurs de chicorée, eux, vont se retrouver sans production. Et donc, là, c'est très simple. Ils parlent du risque de fermeture, pas du tout virtuel, mais un vrai risque de fermeture à horizon 2 ans. Et donc, la situation est vraiment critique, oui.
Ouais, parce que si on ne produit plus de chicorée, il faudra peut-être aller la chercher plus loin. Je sais que l'Inde, par exemple, en fabrique aujourd'hui beaucoup, en cultive aujourd'hui beaucoup. Vous disiez, cette inquiétude, en tout cas, de la filière est partagée par les industriels qui achètent cette matière première. Vous parliez notamment du leader Chicorée Leroux.
Mais oui, alors c'est d'autant plus surprenant, on va dire, que en fait, la chicorée est une plante qui est en plein essor, qui est très tendance, hein, pour le dire autrement. Les entreprises ont fait beaucoup de progrès, beaucoup d'études pour non seulement l'utiliser comme une boisson, comme tout le monde le connaît, mais bien d'autres applications. Et donc aujourd'hui, c'est une culture qui est demandée, qui a vraiment beaucoup d'avenir. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans une sorte d'impasse si on ne leur donne pas une dérogation ultime pour essayer de faire la transition des 2 années, c'est ce que disent un peu les professionnels, 2 années pour trouver des solutions alternatives. En attendant, il y a véritablement une inquiétude que j'ai rarement vue en tant que journaliste. Oui, effectivement, cette filière est très inquiète pour son avenir.
Est-ce qu'ils ne doivent pas justement se tourner plus peut-être vers le bio? C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire?
Alors, ils le font déjà. Je pense par exemple à Chicorée du Nord, qui est une entreprise qui est sur la côte du côté de Dunkerque et qui produit déjà, enfin qui transforme plus de 25%. Ils ont même été à un moment à plus de 50% d'activité en bio. Donc effectivement, c'est possible. Mais encore une fois, ça suppose d'avoir par ailleurs des gros volumes qui, eux, sont assurés, sont garantis par la filière traditionnelle, conventionnelle. Si on ne fait que du bio, on aura des rendements tellement bas que les volumes seront insuffisants pour alimenter la filière. C'est ça le problème, quoi. Et pour l'endive, c'est la même chose. Et du coup, il y a effectivement là environ 7000 emplois. C'est un peu ce que dit le conseil régional en considérant les 2 filières endive et chicorée. 7000 emplois qui sont potentiellement menacés.
La culture de la chicorée menacée dans les Hauts-de-France par l'interdiction de cet herbicide au niveau européen, et ce sans alternative. Une problématique qui rappelle celle des betteraviers français, inquiets de l'interdiction des néonicotinoïdes, un pesticide nocif pour les abeilles. Le secteur fait déjà face à la concurrence de l'Inde, où le climat a l'avantage de permettre 2 récoltes par an. Et dans ce pays, les copeaux sont aussi séchés en plein air, ce qui évite le coût élevé du gaz.
Ça va aller. Ça va aller.
Anaïs, je reviens vers vous. Les producteurs de chicorée inquiets, on vient de l'entendre, mais les consommateurs sont, eux, bien présents. Les amateurs traditionnels du goût caramélisé, notamment. Mais Anaïs, la chicorée à côté fait de nouveaux adeptes?
Oui, donc on a la majorité des consommateurs qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, hein, mais on a des jeunes qui n'en avaient jamais consommé avant ou seulement chez leurs grands-parents, à la maison de campagne, ce genre de choses, et qui ne se voyaient pas en acheter pour chez eux et qui sont en train un petit peu de changer d'avis. C'est un produit ciblé par une cible quand même bobo, très séduite par l'aspect « made in France ». Parce que donc par rapport au café qui est souvent importé de Colombie ou d'Éthiopie, là c'est un produit qui est cultivé dans le nord de la France, donc une empreinte carbone plus faible. Ça évite aussi tous les problèmes de déforestation qui sont associés au café. Donc on a beaucoup cette cible-là et aussi des trentenaires soucieux de leur consommation parfois excessive de café et qui se disent qu'ils couperaient bien de temps à autre par une autre boisson chaude qui n'a pas de caféine, ce qui est le cas de la chicorée.
Pas de caféine dans la chicorée, ben ça me rappelle tiens cet épisode de Big Bang Theory où Sheldon Cooper teste pour la première fois le café.
Where's the coffee?
We're all out.
No problem. I'll be back before this banana hits the ground. Zoom, 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 zoom! Zoom, 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 zoom!
Et le voilà qui se prend pour Flash, super-héros survitaminé. Anaïs, vous vous êtes rendu, vous, il y a quelques semaines, dans un lieu un peu particulier à Paris, chez Beans on Fire. Qu'est-ce qu'on y fait?
C'est un endroit assez étonnant, c'est au nord du 18e arrondissement de Paris. C'est une des dernières zones industrielles en fait, qui existe à Paris. Donc là, il y a un local par les créateurs de deux coffee shops parisiens qui sont des Colombiens, qui en ont un près de Montmartre et l'autre dans le 11e arrondissement. Et ils ont créé un lieu où ils peuvent torréfier leur café, l'en sachet aussi, etc. Et donc, ils ont ouvert leur outil à d'autres jeunes qui sont dans cette vague de coffee shops à l'anglo-saxonne, qui sont assez loin des cafés Richard qu'on sert dans les vieux cafés parisiens. Et donc, ils ont ouvert leurs portes à cette nouvelle marque, en fait, de chicorée qui s'appelle Chérico. Leurs fondateurs, ils se sont installés là, même si, en fait, ils ne peuvent pas torréfier directement parce que ça risquerait de contaminer les batchs de café des autres. Mais du coup, ils ont quand même leur bureau dans les locaux.
Alors, les fondateurs, hein, ce sont Guillaume Roy et Jacques Ferté. Qui sont-ils et quel est leur projet ?
Oui, donc, c'est les fondateurs de cette marque, hein, Chérico, donc un anagramme de chicorée qui a été lancé à l'automne. Et ce n'est pas n'importe qui dans le monde des boissons, parce qu'en fait, ils sont connus pour avoir créé la bière Gallia, qui a été pionnière dans le phénomène des micro-brasseries. Donc, ils l'ont lancée en 2010 avec donc, ce nom qui reprenait celle d'une brasserie parisienne assez célèbre au 19e siècle. Et leur succès a été tel qu'ils ont été rachetés par Heineken en 2021. Et donc, ils ont eu un beau chèque en poche tous les deux. Ils ont décidé, ils se connaissent depuis les bancs de l'école de commerce, ils ont eu envie de se relancer dans un projet et donc ils ont décidé de se concentrer sur la chicorée.
À la chicorée, ça reste quand même un marché de niche, j'imagine, face au café, hein, où on en consomme des millions et des millions de sacs par semaine, en fait.
Tout à fait, c'est un marché qui reste vraiment petit. Pour avoir une idée, donc le mélange chicorée et café de Nestlé, hein, qui est quand même dominant sur le marché aujourd'hui, ça représente seulement 4% du marché du café. Mais les nouveaux entrepreneurs sont persuadés que la chicorée a un avenir brillant devant elle parce que le café est menacé en fait par le réchauffement climatique. La culture des caféiers, elle se fait en altitude et donc en fait, il y a une nécessité qu'il y ait une température plutôt froide. Donc on est obligé de monter de plus en plus en altitude avec le réchauffement climatique. Et on a des rendements qui baissent alors que le problème, c'est que dans le même temps, on a les Indiens et les Chinois qui étaient plutôt consommateurs de thé qui sont en train de devenir fans de café. Donc on a consommation qui augmente, Starbucks en Chine, ça marche du tonnerre et en même temps, on a les rendements qui baissent. Donc voilà, on a plutôt des vents contraires alors que la chicorée est bien adaptée au changement climatique. C'est une plante qui adore la chaleur, qui adore la pluie. Elle peut résister à des températures supérieures à 40 degrés. En fait, elle a vraiment un système bien fait, c'est-à-dire qu'elle a une racine qui pivote avec des petits poils absorbants et donc elle est capable d'aller chercher vraiment de l'eau très en profondeur jusqu'à 1,20 m, donc très bien pour le changement climatique.
La chicorée Leroux, elle a le chic pour
nous faire lever du bon pied et rendre nos journées plus gaies.
Santé goût caramélisée
nous accompagne toute la journée.
Alors pourquoi s'énerver? Laissons-la nous faire voyager.
La chicorée Leroux, elle a le chic pour donner du goût.
Anaïs, on parlait tout à l'heure avec Olivier de deux acteurs nordistes, chicorée du Nord et surtout la chicorée Leroux. Leroux, c'est un incontournable sur ce marché en France?
Oui, parce que Leroux, donc, ce n'est pas que les bocaux qui sont vendus en magasin, c'est aussi l'acteur qui fournit toute la chaîne en B2B. Bon, c'est un peu un faux secret de Polichinelle, mais notamment Nestlé, donc, qui est quand même le premier acteur de ce marché, pour Ricoré. Chérico se fournit aussi auprès de Leroux aujourd'hui. On a deux autres entreprises dans les Hauts-de-France qui sont encore sur ce marché. Hein. On a Sonodé et Lutin, donc la première sur le séchage de la racine et la seconde sur la torréfaction. Mais en fait, il n'y a que Leroux qui offre vraiment toute la gamme de services de A à Z. Et en fait, la barrière à l'entrée, elle est assez élevée parce que j'ai été voir leur sécherie à Vieille Église, donc c'est près de Calais, et on voit que c'est un énorme investissement en fait, puisqu'il faut des fours à gaz cylindriques très puissants pour pouvoir sécher les cossettes, donc les chips de chicorée. Et après, bah, pour obtenir la torréfaction, pareil, il faut d'autres types de fours en cuivre qui sont aussi des investissements très très lourds. Donc quand Chérico a espéré eux-mêmes torréfier leur chicorée, ils se sont vite rendu compte que pour le moment, c'était pas possible.
Voilà, chicorée, hein, bien sûr, on a tous en tête le film Bienvenue chez les Ch'tis. Hein, je vais pas vous refaire l'accent, je suis sympa, moi j'ai mon accent breton, ça suffit. Les créateurs de Chérico, d'ailleurs, veulent dénordifier la chicorée, mais est-ce que le risque, c'est pas d'en faire finalement un produit bobo?
Oui, bah voilà, ils m'ont parlé exactement de ce film, ils m'ont aussi parlé des tuches où le mari appelle sa femme ma chicorée. Donc voilà, pour eux, c'est vraiment pas l'image qu'ils recherchent. Eux, ils misent sur une montée en gamme avec un packaging très tendance, des couleurs flashy, la police en dirait presque l'affiche pour un DJ très pointu dans un bar berlinois. Enfin, voilà. Mais avec, il y a le prix qui va avec. Hein. Donc, c'est des pots de presque 7 euros les 80 grammes contre 4 euros les 100 grammes pour le roux. Donc, on est dans une autre dimension.
Plus cher que certains thés hein, de qualité.
De qualité, hein. Exactement. Mais bon, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être un frein pour leur cible. Hein. Ils ont eu 1744 précommandes sur le site de financement participatif Ulule. Et ils ont aussi remporté, c'est l'un des lauréats de l'appel à projet de Monoprix pour des jeunes marques qui s'appelle Pépite. Donc, ils vont être référencés dans des Monoprix à partir d'avril, a priori une centaine de Monoprix.
Voilà, et les deux fondateurs ont investi 200 000 euros chacun quand même dans ce projet, qui n'en est encore qu'au début. Mais sur le site Ulule, ils promettent la révolution chicorienne. Comment comptent-ils faire grandir cette marque de chicorée ?
Alors, ils sont en discussion avec des supermarchés comme Naturalia et Bio C'est Bon, et misent aussi beaucoup sur le B2B, donc la vente dans les bureaux. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'au bureau, ça pourrait être pas mal d'avoir autre chose que du café. Les restaurants, les coffee shops. Donc, ils ont déjà convaincu une vingtaine de lieux parisiens, dont notamment les espaces de coworking de la marque Morning, avec une recette de latte au lait d'avoine, ce qui est pas mal aussi pour gommer un peu l'amertume, qui est quand même encore un frein assez grand à la consommation de chicorée.
Ah, vous aimez ça, vous, la chicorée ?
Eh ben, j'étais pas fan. Par contre, c'est vrai qu'une fois que j'ai goûté le latte, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Donc, adouci avec du lait, c'est vraiment pas mal.
Anaïs, les fondateurs de Gallia, hein, passés de la bière à la chicorée, sont-ils les seuls aujourd'hui à surfer sur le renouveau de cette tubercule ?
Non, on a aussi une autre jeune entrepreneuse hein, qui a même démarré avant eux. Et c'est plutôt marrant parce qu'avant ça, elle était lobbyiste pour le syndicat du café. Et donc, elle s'appelle Sarah Azans. Elle a lancé Nouré en 2020, suite à une maladie en fait, qui l'a obligée à arrêter de boire du café. Et donc, elle a lancé, elle, c'est des jolis bocaux en verre et elle a fait chicorée et chicorée cacao. Là, à nouveau, c'est pas mal pour gommer un peu l'amertume. Et aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, elle en vend une dizaine de milliers par an, la majorité sur son site internet, mais elle a aussi des revendeurs comme la Grande Épicerie, maintenant les chez Nature et Découverte. Mais c'est pas la seule. Hein. Nestlé, ils sont aussi en train de repenser leur gamme pour pas se laisser dépasser et séduire les jeunes. Donc, ils ont lancé récemment un ricoré latte dans leur gamme Nescafé et ils multiplient les partenariats avec des influenceurs qui touchent les jeunes pour essayer de rester dans le jeu.
C'est avec moitié chicorée que nous ferons le bon café.
Avec la chicorée, le roux,
que nous lui donnerons bon goût.
La plus forte production française, ça nous mettra le corps à l'aise.
Et nous aurons en supplément des primes superbes en un rien de temps.
Jacques Élian, sur l'air de Madame la Marquise en 1939, avant la guerre et sa pénurie de café, dont profita aussi la chicorée. Merci Olivier Ducoing, correspondant des Échos dans le Nord, et merci Anaïs Moutot, journaliste aux Échos Week-end. Son récit, l'étonnant comeback de la chicorée, est à retrouver sur le site des Échos. On vous le met en lien dans la description de cet épisode. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com/AI for people to learn more.